Interview.
1 du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le podcast du site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous recevons au studio Michel Laubu. Bonjour.
Bonjour.
Michel Laubu, vous êtes metteur en scène. Vous avez multifacette d'ailleurs pour un spectacle qui s'intitule Turac Théâtre, avec un titre Chaussures à son pied. On pourrait déjà présenter ce spectacle. On imagine Chaussures à son pied, Cendrillon, je crois.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un spectacle, une aventure poétique autour du comportement amoureux qu'on peut croiser dans les contes de fées. Donc Cendrillon, mais aussi les souliers rouges, peut-être le petit chaperon rouge. On peut penser à tout ce qui est du comportement amoureux un peu questionné, un peu titillé comme ça dans les contes de fées.
Cet attrait pour les contes, en gros, cela vient de quel moment pour vous?
Je crois que c'est une chose qui est assez récurrente, qui est présente un petit peu partout. Pour ce projet-là, ce projet fait partie d'un cycle, ce spectacle-là. Alors déjà, il faut savoir que parmi mes nombreuses casquettes, je suis aussi embarrassadeur d'un pays qu'on a inventé, qui s'appelle la Turquie. Et je suis, alors, je dis embarrassadeur parce que c'est toujours difficile de représenter un pays qui n'existe pas, quoi. Alors, c'est un peu, mais notre but, c'est d'être embarrassadeur et de devenir petit à petit embrassadeur, c'est-à-dire de développer la convivialité et la chaleurosité. Et donc, dans nos différents cycles, on a travaillé pendant plusieurs années sur le comportement amoureux. On a fait un grand spectacle grand plateau, comme on l'appelle. Donc c'est 2 semi-remorques de décors, etc., etc. Et on a fait l'opéra Carmen. Ça s'appelait Une Carmen en Turquie. Et donc c'était le début de cette réflexion sur le comportement amoureux. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On a travaillé avec une éthologue, donc une scientifique du comportement amoureux, qui nous a raconté plein d'histoires dans le monde animal. Sur comment se passe le comportement amoureux chez tel type d'araignée, chez un poisson. Cette chercheuse, d'ailleurs, a fait toute une étude sur le chagrin d'amour chez un petit poisson. Donc, elle nous a raconté toutes ces choses-là. Et à partir de ça, on a fait donc 3 spectacles, qui étaient d'abord Carmen, ensuite un petit spectacle sur les parades nuptiales en Turquie, et puis celui-là qui s'appelle Chaussures à son pied, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de ces drôles de comportements amoureux. Qu'est-ce que ça nous raconte, Cendrillon, mais de manière quasiment sensuelle, physique, quoi. Qu'est-ce que ça nous raconte, cette histoire de chaussures, de pieds, trouver chaussures à son pied, chaque pot à son couvercle, toutes ces expressions. Donc on joue avec tout ça.
On pourrait peut-être préciser le nom de cet éthologue pour les auditeurs curieux.
Chloé, alors c'est ma fille. C'est Chloé Laubu. Et donc, il a fait une thèse sur le chagrin d'amour chez un petit poisson qui s'appelle le cyclidé zébré. Donc, ils ont prouvé que ce poisson, qui est un poisson monogame, un petit poisson qui mesure 7-8 cm, et ce poisson monogame, c'est-à-dire qu'avec le même partenaire, ils vont élever leurs petits ensemble. Il y a un partage des soins parentaux. Et quand ils sont séparés, c'est-à-dire que, alors c'est un peu cruel, parce que quand ils enlèvent un des partenaires, eh bien l'autre tombe dans une espèce de déprime. Il va, il voit le verre à moitié vide à ce moment-là. Et donc c'était assez touchant, tout à coup, d'imaginer que ce petit poisson, quand on compare la taille de son cerveau par rapport au nôtre ou à son système nerveux, je trouve que c'est très émouvant. Donc on a essayé de se promener au milieu de tout ça. Ce spectacle-là, Chaussures à son pied, c'est effectivement plus les contes de fées. Mais quand même, qu'est-ce qu'il y a d'animal chez nous? quand qu'est-ce qu'il y a d'animal dans les boîtes de nuit, dans les manières d'essayer de séduire, d'attendre ce prince ou cette princesse, puisqu'on nous l'a dit et tellement répété.
Tout.
Oui, c'est ça, effectivement, tout.
Alors, Cendrillon, version moderne ou dans une époque contemporaine, avec les moyens de communication, comment ça se présente sur scène?
Oui, pas trop. Nous on fait du théâtre d'objets. Alors, on se demande souvent qu'est-ce que c'est que le théâtre d'objets. Nous-mêmes, on se pose encore la question. On continue à dire qu'on fait du théâtre d'objets parce que ce sont les objets qui nous montrent le chemin. C'est-à-dire qu'on fait des spectacles poétiques qui ne racontent pas forcément une histoire linéaire. C'est plutôt un chemin, un voyage, comme ça, dans un univers très ludique, plutôt décalé, plutôt assez absurde. Donc on s'est amusé d'abord à collecter des chaussures, plein de chaussures, et puis à jouer avec, et puis à construire des personnages, puisqu'on, voilà, c'est du théâtre d'objets marionnettique. Donc on s'est aperçu que dans pas mal de contes, il y avait des loups aux dents longues. On se dit que dans notre monde, tout autour de nous, on en croise quand même un certain nombre de ces loups assoiffés. Et donc voilà, et on a joué avec tout ça, et on a fait, un peu comme des archéologues, on a fait sortir des images de notre mémoire collective autour du comportement amoureux. Donc le moment où le chaperon rouge, par exemple, croise le regard du loup. Qu'est-ce qui se passe? Et qui est vraiment, qui est en position de force? Est-ce que ce petit chaperon rouge est tellement craintif, ou au contraire, il arrive à prendre le dessus et tout à coup dire au loup « Oh !» Ça va, oui. Donc voilà, on a essayé de jouer un peu avec tout ça, avec un loup prof de tango qui, à un moment, peut venir et être un peu trop entreprenant. Donc voilà, on joue à tout ça. On a au départ du spectacle une princesse, un peu comme elles sont dans les contes de fées, dans la tente, et on peut faire le jeu de mots, dans la tente du prince charmant. Et on ne sait pas trop qui, effectivement, ce qu'on lui a promis comme prince charmant. Et elle en voit passer. Et dans le spectacle, par exemple, il y a, je crois, 8 robes de mariée, je ne sais combien de paires de chaussures. Donc sans arrêt, elle essaye, elle y croit. C'est un peu, je crois, aussi l'histoire de nos vies croisées. Y a une aventure qui se présente qui n'était pas du tout là où on l'attendait. Voilà, c'est un jeu au milieu de tout ça. C'est comment on se promène, d'énigmes, de choses trappes, de petits pieds de nez. Ça vient taquiner un petit peu tout ça, je crois.
Sur scène, il y a combien d'intervenants, de comédiens, de musiciens même?
C'est pas ce que je peux dire. Alors, il n'y a pas de musiciens. C'est un solo au départ. Finalement, on s'aperçoit au cours du spectacle que ce n'est pas vraiment un solo. Déjà, on le voulait comme un solo puisque c'est la recherche, l'attente de l'amour. Donc, cette personne est toute seule. Il y a des surprises dont je n'en dirai pas plus. Mais surtout, il y a toute une série de personnages marionnettiques. Ce n'est pas vraiment des marionnettes. Nous, on fait du théâtre d'objets. Donc, c'est des choses, presque des sculptures bricolées d'objets. C'est une poésie bricolée. On a des loups, des chats, des différents bestioles qui pourraient être des princes charmants peut-être. En tout cas, on peut y croire par moments. Ils sont très bien habillés, des beaux costumes. Et c'est ça, c'est une sorte de parade comme ça, une parade nuptiale au milieu de tout ce monde. Et c'est un peu les déboires, je ne sais pas. En tout cas, le chemin un peu... Peut-être c'est le chemin du petit chaperon rouge à travers la forêt. Effectivement, il y a des papillons, il y a des fleurs, il y a des grands-mères, il y a un peu tout ça.
Un théâtre d'objets sans parole?
Oui, il y a une parole, je crois, pendant tout le spectacle. C'est vraiment poétique, musical. La musique a une place très, très, très importante. On a utilisé des œuvres, d'ailleurs. On a adapté des œuvres de musique baroque, notamment d'une compositrice. Donc, on s'aperçoit que finalement, à l'époque... je ne sais pas si on a fait beaucoup plus de chemin à notre époque actuelle que depuis, puisqu'il y avait des compositrices. Et je trouve ça... Enfin, c'était touchant, d'ailleurs, d'utiliser la musique de Strozzi. Donc, on a pareil, on a joué sur ces chants d'amour de l'époque baroque et comment on pouvait les retranscrire avec guitare électrique et clarinette basse. Donc, c'est réécrit, c'est adapté. Donc, il y a comme ça une espèce de moulinette un peu poétique et absurde qu'on a mis en route.
Musique baroque, spectacle baroque aussi.
Ouais, je crois qu'il y a quelque chose de très baroque dans les images. Il neige sur scène. Enfin, moi, j'aime bien ces images un peu baroque et loufoque ou baroque and roll. J'aime bien ce jeu de mots baroque and roll. Ouais, c'est ça. C'est des images un peu chargées. Ouais, un décor qui se transforme. C'est ce bricolage. Moi, j'aime bien ce baroque, peut-être, c'est ça, baro-bricolage.
Malgré ce spectacle faussement solo, il y a quand même toute une équipe derrière. Ah oui. On peut peut-être en parler rapidement aussi.
Oui, ben c'est nous, on a vraiment un travail de compagnie. Donc, c'est vraiment toute une équipe qui partage cette aventure. Faire un nouveau spectacle, puisqu'on part de rien, on ne part pas d'un texte existant, on part vaguement d'une idée. Et donc on partage, donc il y a toute une équipe de constructeurs, puisque nous, comme on dit chez nous en Turaki, on sait à peine lire et écrire. Hein. Alors on écrit avec des marteaux, des scies, on commence à écrire le spectacle à l'atelier, à faire ses premiers objets et à jouer avec. C'est des spectacles de plateau. Donc il y a l'équipe de constructeurs, il y a Charlie, il y a ces musiciens avec lesquels, dès le début, on partage. Et par exemple, la musique ne vient pas illustrer des images. Elle va faire naître des images. Donc on a les musiques, on a les objets et on essaye, un peu comme des alchimistes. On essaie de mettre ça et tout à coup on se dit « Ah ouais, ça c'est juste, ça nous paraît pertinent par rapport à ce qu'on a envie de raconter du comportement amoureux, de cette chose très actuelle dont tout le monde parle, des genres, qu'est-ce que c'est exactement, où on se situe, comment on se situe ?» On dit toujours le loup, mais il y a aussi des louves. Voilà, comment... Donc on joue avec tout ça, mais dans les images. On s'amuse à gratter le sol de notre mémoire collective. Et tout à coup, on trouve des images et on se dit « Mais attends, ce petit chaperon rouge... » Par exemple, on s'est amusé. Et quand je dis « on », c'est vraiment avec toute l'équipe. Hein, parce que Émilie, qui joue donc dans le spectacle, a écrit le spectacle. Moi, je le mets en scène. Émilie Hufnagel. Et puis ensuite, on partage avec l'équipe. Chacun amène des choses. Et à un moment, on s'est amusé. On s'est dit « Et si on superposait Carmen et le petit chaperon rouge ? Ben, qui est Carmen ? Est-ce que c'est le petit chaperon rouge ou est-ce que c'est le loup ? Qui est le taureau ? Est-ce que... et du coup, c'est très intéressant de se dire, ben, est-ce qu'on ne peut pas voir les choses un peu autrement ? Est-ce que Carmen est une mangeuse d'hommes, comme on aime souvent le rappeler ? Ou est-ce que c'est une victime ? Ou est-ce que c'est justement aussi, comme on le dit dans l'opéra Carmen, est-ce que c'est justement le symbole un peu de la liberté, de l'amour libre, de l'amour vrai en tout cas. Qui est le petit chaperon rouge ? Est-ce que c'est pas lui le plus malin qui... Bon, voilà, qui est la grand-mère dans tout ça ? Et c'était vraiment... c'était des séances assez absurdes, hein, tout à coup, d'imaginer le petit chaperon rouge avec un couteau de boucher dans le dos. Donc on a joué vraiment avec... avec tout ça. Et tout à coup, mais vraiment, on avait vraiment l'impression, oui, d'être sur un champ de fouilles archéologiques. Et puis d'enlever la poussière et de voir apparaître comme des mosaïques ou comme des fresques qui venaient de notre mémoire profonde, de ce qu'on partage. Puis on fait un théâtre sans texte. Ça veut dire qu'on se pose aussi la question de ce qu'on peut partager avec des gens qui ne parlent pas la même langue que nous. On a la chance d'emmener nos spectacles... Alors, pas en ce moment, pour des raisons qu'on connaît tous, mais de jouer souvent à l'étranger. Et quelles sont les images qu'on peut partager avec des Islandais, avec des Syriens, avec des Russes ? Qu'est-ce qu'on a en commun sur les histoires d'amour ?
Vous citiez Émilie Hufnagel, qui sera sur scène. Oui. Alors, je vois sur la présentation de et par Émilie Hufnagel. Quelle est son implication, en plus de comédienne, sur ce spectacle ?
C'est vraiment elle qui a écrit. Alors, c'est vrai qu'on se pose toujours la question, qu'est-ce que c'est qu'écrire un spectacle qui n'a pas de texte ? Mais c'est, je crois, lui donner la direction, c'est prendre les commandes, c'est se dire, bon, ben voilà, je voudrais, moi j'aimerais qu'on raconte telle chose, cette chose-là m'intéresse, notamment ben la place des... Émilie a deux filles, elle est maman de deux charmantes petites filles, et elle dit, mais voilà, c'est aussi les histoires que j'aimerais leur raconter, ben comment vivre dans notre monde actuel, comment on est traversé, comment on ne se laisse pas anéantir par ce sentiment amoureux, par ces aventures amoureuses, par un peu tout ça. Les loups, il faut à la fois s'en méfier, mais peut-être pas trop. Enfin, il faut comment on joue avec eux, comment on les apprivoise, comment un peu tout ça, quoi. Donc, écrire le spectacle, je crois que ça a été ça. Et puis moi, j'ai essayé d'être à son écoute pour le mettre en scène, c'est-à-dire le traduire en signes qui vont être vus par les spectateurs, se dire, ah ben attends, mais là, cette musique, peut-être que c'est un peu long et qu'on s'y perd. Mais est-ce qu'on n'enlève pas un petit peu de poussière autour de cette image? Est-ce que... Donc voilà, on a vraiment eu un duo autour de enfin, sur ce spectacle.
Vous-même, en plus d'être le metteur en scène, vous êtes aussi le constructeur des marionnettes avec Géraldine Bonneton. Je vois là, par exemple, sur l'illustration, la comédienne portant un masque. Ces conceptions, elles sont inspirées d'une époque aussi, comme la musique baroque. Est-ce qu'il y a un contexte qui est mis en avant ?
Non, il n'y a pas une réflexion particulière. Une réflexion. Il y a plutôt un travail plastique particulier, ce qui est que nous, on fait du théâtre d'objets usés. On fait, comme je disais tout à l'heure, de l'archéologie imaginaire. C'est-à-dire que dans notre sur scène, sur nos scènes, il n'y a que des objets poussiéreux, un peu cassés, qui trimballent leur histoire. Donc notre fournisseur officiel, c'est Emmaüs, des recycleries, les vides-greniers, etc. C'est des morceaux de mémoire qu'on emmène ailleurs. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas de visage, de tête. Donc on a essayé d'inventer une chose qui était de... Moi, j'ai commencé à sculpter des pommes de terre, enfin de la matière vivante, des pommes de terre ou des noyaux d'avocat. Je les sculptais et ce qui est intéressant, c'est que je les laisse vieillir, je les laisse sécher. Donc en 2 ou 3 semaines, un noyau d'avocat va complètement vieillir, beaucoup plus vite que nous, et il peut nous donner une idée de ce à quoi bientôt on va ressembler. C'est-à-dire qu'il va commencer à se racornir, à avoir des rides, à se friper. Et ensuite, parmi tous les noyaux sculptés différents, on se dit, ah ben ouais, celui-là, il peut marcher, il peut raconter, il peut marquer le visage de cette princesse dans la tente. Et celui-là, on va ensuite le reproduire à l'échelle qu'il nous faut. Parce qu'un noyau d'avocat, vous imaginez, c'est tout petit, puis en plus, il va sécher. Donc, on va le reproduire à une grande taille, en argile. Alors ça, c'est ce travail que je fais avec Géraldine, parce que moi, je suis incapable de modeler cette même chose. Donc, elle le fait, puis moi, je rectifie un petit peu. Et puis ensuite, on va le mouler. Et on va le réaliser d'abord en latex, ce qui va nous permettre encore de remodifier les choses. Mais par contre, le latex, il n'y voyait pas un rapport. Oui, c'est très, très chaud, c'est vrai. Et puis, ce n'est pas non plus un rapport, parce qu'on parle de comportement amoureux. On ne défend pas le latex, mais on n'a rien contre non plus. Mais c'est assez désagréable sur la peau. Donc, on les réalise en papier. C'est-à-dire sur le latex, on prend l'empreinte avec du papier de sac de farine qu'on récupère chez le boulanger. Donc là encore, il y a un recyclage. C'est un très beau papier, le papier de sac de farine. C'est un papier très, très absorbant et très solide. Donc on l'imbibe de colle à bois et on va prendre la forme. Et c'est vrai que c'est très, ça reste assez souple et c'est très beau. Et puis ce papier est marqué par le temps, par les plis, par tout ça.
Vous êtes metteur en scène, plasticien en quelque sorte. Quel était votre parcours qui vous a amené à être dans le spectacle, ouais, et au sein de Turac Théâtre, ouais, même?
Moi j'ai commencé à faire des spectacles. Je crois que je n'en avais jamais vu. J'ai grandi dans une cité minière en Moselle, et puis je m'ennuyais au lycée. Et j'ai commencé à monter un spectacle pour les enfants. Et je suis allé jouer, c'était donc 17 ans, j'ai fait mon BAFA, je commençais à faire de l'animation pour les enfants. Et j'ai monté un spectacle avec des trucs récupérés, déjà, parce qu'il y avait dans cette petite ville, je vais vous raconter toute ma vie intime, il y avait un Monoprix, je crois, ou un Prix Unique. Et il y avait un décorateur avec lequel j'avais sympathisé. Et à un moment, il nous a demandé, on était deux, trois copains, il nous a dit, est-ce que vous ne voulez pas venir ranger mon atelier? Et puis, moi, je vous donne tout ce qui ne me sert plus. Donc, on a fait ça, on est allé l'aider à ranger. Il nous a donné, je suis reparti avec des trucs. Et avec les copains, on a commencé à construire des personnages. Et j'ai fait un spectacle que j'ai joué tout seul, que je jouais dans les écoles. Mais les horaires des écoles primaires, maternelles, sont les mêmes que les horaires du lycée. Donc, je ne pouvais plus suivre les cours au lycée. Donc, j'ai commencé à me faire des faux mots d'absence pour pouvoir aller commencer à faire mon métier, quoi. Et voilà. Et c'est une belle histoire, parce que jusqu'au jour où le proviseur du lycée me croise dans la cour, un jour où je suis quand même allé au lycée, parce que quand je n'avais pas de représentation, j'allais au lycée, normalement. Et je le croise, mais il accompagnait sa fille à l'école. Et sa fille, à ce moment-là, lui dit « Ah, c'est le monsieur qui a fait le spectacle hier à l'école !» Donc, il y a eu un petit malaise. Et ce proviseur, très, très sympa, m'a dit « Je crois comprendre un peu mieux vos absences. Vous viendrez me voir dans mon bureau tout à l'heure. » Et ça en est suivi un très, très bel échange où il m'a dit « Écoutez, je comprends maintenant un peu ce que vous faites, mais c'est très dangereux parce qu'imaginez qu'il vous arrive un accident, vous ne serez pas couvert. Donc, quand on a 17 ans, on a quand même des idées assez arrêtées. Je lui ai dit, mais vous savez, moi, c'est ce que je veux faire, c'est le métier que je veux faire, il n'y a que ça qui compte. Et il a eu une très, très belle proposition. Il m'a dit, écoutez, je vous comprends, je vous propose un échange. Vous me promettez d'aller voir un conseiller d'orientation pour en parler. Et moi, en échange, vous me donnez votre calendrier de représentation et je vous mets en activité du lycée. Et j'ai trouvé que c'était très, très, très intelligent et généreux de sa part. Je trouve que c'est vraiment comme ça qu'un enseignant, enfin quelqu'un qui accompagne un enfant, un jeune, c'est l'écoute qu'il doit avoir. Et ça a été super. Et j'ai eu la chance de vous rencontrer un conseiller d'orientation passionné de théâtre et de cinéma. Donc, en plus, c'est la personne qui me fait rencontrer pour la première fois un artiste de théâtre gestuel, visuel, de mime. Et voilà. Et ensuite, je quitte le lycée et je vais faire un centre de formation artistique à Nancy, un centre universitaire de recherche artistique sur le théâtre asiatique, le théâtre traditionnel asiatique. Donc j'apprends à faire du théâtre no, du théâtre balinais, du théâtre indien. Et voilà, un théâtre gestuel, sans texte, avec des objets, très peu, parce que c'est asiatique, donc c'est vraiment réduit. Dans le théâtre no, ils utilisent un éventail, mais qui devient le sabre du samouraï, qui devient tout ça. Et je ressors de ces études avec une envie folle, mais d'adapter ça à ce que je faisais déjà, qui était ce théâtre d'objets, ce théâtre bricolé, quoi. Une lampe de poche avec deux, trois petits fils qu'on tire, et ça devient une espèce de grenouille, des temps modernes. Voilà, donc c'est un parcours un petit peu chahuté et en même temps évident. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis posé la question. Me dire, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est... Non, on arrive, il y a des temps difficiles. On monte la première compagnie, et puis on n'a pas de sous, et il faut trouver le moyen de vivre. Mais voilà, ça... Et puis ensuite, je crée la compagnie en arrivant à Lyon. En 85, je crée le Turac Théâtre, donc ça fait 36 ans.
Vous expliquez justement le Turac Théâtre, ce qu'il était, donc une résurgence d'un pays imaginaire en quelque sorte. Quel a été le travail accompli par le Turac Théâtre depuis sa création ?
C'est de très 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 nombreux spectacles, parce que des fois on nous demande combien de spectacles et on est incapable de le dire, parce que je suis un peu boulimique, donc on en fait beaucoup, on en fait de toute façon au moins un par saison. Mais quelquefois, on fait un travail, on a une aventure de recherche et il nous est arrivé de faire quatre spectacles dans la saison, mais qu'on ne jouait pas plus de 10 fois. On les créait, on les jouait 10 fois et on jetait tout. Et c'était sur une thématique, on a travaillé sur le thème des tempêtes. Et donc, on a essayé plein de choses. Il y a eu la tempête dans un magasin de porcelaine, il y a eu... Donc voilà. Alors, ensuite, on a fait une aventure sur le sentiment pingouin. En disant qu'en Turquie, on aime raconter que, comme vous le savez, les pingouins et les manchots vivent sur l'épaule nord et sud. Imaginez l'épaule nord, celle-ci, l'épaule de votre bras droit. Sur cette épaule, on y trouve des pingouins et on y trouve aussi des manchots. Mais on se dit, pourquoi ? C'est parce que, simplement, ils sont très conviviaux et qu'ils se rendent des visites de courtoisie. Et un jour arrive le loup à raquette, c'est un loup qui vit essentiellement en Turquie. Ce n'est pas un loup qui attend les enfants à la sortie de l'école pour leur demander de l'argent. Quand je dis à raquette, c'est parce qu'il a des raquettes aux pieds. Parce qu'il s'est mis à neiger beaucoup en Turquie, il fallait se déplacer. Et le loup, vous le savez, mange les enfants. Bon, c'est normal, c'est lui qui régule un petit peu. Hein, pour pas qu'il y a trop d'enfants, il faut bien nourrir le loup. Mais ce loup est là et tout à coup, il ne trouve plus d'enfants. Et donc, il voit le pingouin qui est sur l'épaule de l'habitant de Turquie. Il s'approche. Et le pingouin, vous savez, est insouciant. Et le loup est de plus en plus près. Il ouvre sa gueule et à ce moment-là, je ne sais pas si vous savez, mais les loups ont tous, comme ils mangent aussi des moutons, quelquefois, ils ont mauvaise haleine. Ils ont mauvaise haleine de mouton. Et donc, le pingouin sent la mauvaise haleine du mouton. Là, il a peur et il va se cacher. Il utilise l'orifice buccal béant de l'habitant de Turquie et il plonge par la bouche, comme ça, et il s'installe à l'intérieur. Et donc, on se dit que depuis ce temps-là, chaque habitant de Turquie a au fond de lui un pingouin qui sommeille. Ce qui explique un peu, quelquefois, la maladresse qu'on a dans la vie. Vous savez, le matin, on se lève et on renverse son bol de café. Et bon, ça arrive quelquefois. Et ça, c'est la maladresse de ce pingouin, de ce manchot, quoi, hein, qui a pas tout le matériel pour bien tenir la tasse, quoi. Et donc, ça, on peut beaucoup se questionner sur le sentiment pingouin qui se développe chez nous. Et donc, pendant 4 ans, on a travaillé sur ce sentiment pingouin. Donc, on a fait plusieurs spectacles. Le pingouin est un oiseau avec des moufles, par exemple. La petite fabrique de pingouins. Voilà, il y a eu plein de... Et puis de proverbes. On dit, par exemple, qu'une vache debout, c'est un pingouin qui se moque du monde. Voilà, des petits proverbes absurdes comme ça. Comment un pingouin avec des étagères sous les ailes, c'est une armoire abandonnée sur la banquise. Et voilà, des petites choses. Et on s'amuse comme ça. Et tout à coup, à laisser naître un univers poétique dans lequel on va inviter le spectateur.
Du surréalisme, peut-être, de l'onirisme aussi.
Oui.
Des situations qui sont éphémères, peut-être aussi, comme tous les spectacles que vous avez produits. Oui. Parce que qu'en reste-t-il de ces spectacles depuis des années, ne serait-ce que par la mémoire ?
Eh bien, en tout cas, nous, on n'est pas du tout collectionneurs. Ben, moi, on a énormément d'objets à l'atelier, stockés, des objets rangés sur des étagères, il y a des cartons. L'autre fois, quelqu'un me faisait remarquer, pourquoi sur ce carton, il marquait « chute de courge ». Attention, chute de courge. En fin de compte, c'est des calebasses qu'on a découpées, mais on garde les morceaux. Donc, il y a des cartons comme ça. Mais par contre, on n'est pas collectionneurs. Et les spectacles, dès qu'ils ne jouent plus, on les démonte et on réutilise des morceaux. Mais bon, ça peut être des gros morceaux, hein, puisque l'avant-dernier spectacle, par exemple, le décor, c'est 40 frigos empilés. 40 frigos, ça commence à faire, quoi. Et c'est des frigos sur des roulettes. Enfin, tout ça se déplace, c'est des murs de frigos. Mais on ne peut pas conserver tout ça. Je pense qu'on confie cette tâche aux spectateurs. Et d'ailleurs, ça marche très bien, parce que très souvent, les gens nous racontent un spectacle qu'ils ont vu il y a des fois 15 ans, 20 ans. Des gens qui me disent même... j'ai croisé un metteur en scène il n'y a pas longtemps, qui me dit « Ah oui, j'avais vu ça. Oh, mais j'étais tout minot. Et j'étais à Lyon. » Et voilà, c'est émouvant. Et il me raconte des choses que j'avais oubliées. Il dit « Ouais, et puis vous aviez fait un petit déjeuner, spectacle. Il y avait une chèvre, on avait pris une chèvre, il m'a rappelé ça. On avait pris une chèvre vivante qui nous a accompagnés, comme ça, pour faire la... » Ce qu'on fait, on s'amuse à faire des vrais faux musées archéologiques dans des musées, dans des vrais musées. Ça, c'est génial. On a eu la grande chance d'installer une exposition qui est restée 6 mois au musée des Confluences à Lyon, donc le nouveau grand musée à l'entrée de Lyon quand on arrive par le sud. Donc on avait une expo de 200 mètres carrés qui était la reconstitution d'un habitat de Turquie. Et ça c'est génial parce que c'est un musée des civilisations. Donc les gens arrivent et tout à coup arrivent dans notre bazar, effectivement surréaliste. Moi, quand j'étais ado, j'ai été bouleversé par l'univers surréaliste. Donc arrivent là-dedans et se disent c'est où la Turquie ? Donc les gens le prennent au premier degré dans un premier temps et ça c'est délicieux. C'est délicieux de voir les gens se poser la question, de se demander si le rhinotrin c'est un animal qui a vraiment existé. Le rhinotrin. Donc, on a simplement découpé des jouets d'enfants. C'est l'avant d'un rhinocéros et l'arrière d'un wagon de voyageurs, de train électrique. Et les gens sont là, le regardent, ils se disent, mais c'est une représentation d'un animal qui a vrai. Et ça c'est vraiment délicieux de pouvoir les emmener, parce que les gens ont envie de se raconter des histoires. C'est incroyable, hein. Et souvent d'ailleurs, peut-être la parole qu'on entend le plus à la sortie de nos spectacles, c'est ah merci, vous m'avez fait retrouver mon âme d'enfant. C'est peut-être ces choses qu'on s'interdit au bout d'un moment, parce que bon, il faut quand même porter la cravate et être un peu sérieux. Et je pense qu'on s'interdit tout à coup de rêver, de regarder les nuages et de se dire, oh là là, regarde cette antilope, elle est en train de rencontrer justement peut-être un rhinocéros. Et peut-être qu'on s'interdit maintenant un peu ça et que tout à coup, on a ces espaces poétiques qui peuvent nous le permettre. Et je crois que nous, on milite vraiment pour ça. Et c'est notre travail, je crois que c'est vraiment notre boulot.
Pour connaître un peu Turac Théâtre, quel est le moyen actuellement pour en savoir plus ?
Alors déjà, venir nous voir dans ce magnifique théâtre Adi, en plus c'est très joli, théâtre désert. En plus on peut faire plein de jeux de mots, c'est-à-dire que le désert nous laisse beaucoup de place. Enfin, je trouve que c'est magnifique. Et puis sinon, on a un blog avec énormément d'accès à des petites vidéos, parce qu'on s'amuse. Comme je disais tout à l'heure, on est boulimique, on a envie de tout faire un peu, on fait des petits films d'animation. On a eu une commande un jour des Subsistances, qui est un lieu de résidence artistique à Lyon, dans une friche. C'est un très 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 beau lieu, c'était une ancienne abbaye. Et on était résidents. Et un jour, ils ont passé commande à plusieurs artistes de quelque chose, d'une œuvre, enfin, d'un projet sur le thème du striptease. Bon, et donc on s'est frotté à ça et on a fait un spectacle qui s'appelait Striptease, petite machinerie pour se striptiser chez soi, entre amis ou en société. Donc on s'est amusé avec des objets. Et on a fait un tout petit film où on peut voir des striptease de poupées Barbie à tête de robinet. Donc on a pris des poupées Barbie, enfin on a récupéré chez Emmaüs, ils nous ont donné des poupées Barbie qui n'avaient plus de tête. Alors je ne sais pas ce que font les enfants à arracher les têtes des poupées Barbie. Et on a remplacé, et du coup on avait ces corps, on a remplacé par plein de choses, et notamment, ça marche très bien avec un robinet. Donc on a comme ça des familles de robinets. Et on s'est amusé à faire des petits, des striptease de poupées Barbie à tête de robinet. Donc ça, c'est visible, par exemple, sur notre blog. Il y a plein de vidéos comme ça.
Voilà, je rappelle donc le Turac Théâtre qui proposera jeudi 17 juin à 20h au Théâtre Désert Adi, Chaussures à son pied. Eh bien, Michel Lobu, je vous remercie d'être venu nous parler de ce spectacle et je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Peut-être un proverbe pour finir. Hein. On dit chez nous en Turaki, qu'on peut traduire par l'amour. Au début, on n'y comprend rien. Mais tout à coup, on n'y comprend rien. Voilà, c'est un peu la philosophie.
Au revoir.
Au revoir et merci beaucoup.